Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Pas hygiénique. Dans les égouts, il y a des cadavres, d'animaux, d'êtres humains. La terre aussi est polluée, car beaucoup de gens, pour ne pas payer un enterrement, enterrent, sans rien dire, leur mort dans les caves, comme ça, dans le sol. Ce qui fait que les cadavres polluent l'eau. Terre. Paris, à cause de tout ça, a de la fièvre. Beaucoup de gens tombent malades. Des corps se tordent de douleur. Des diarrhées, leur peau devient noirâtre, ils meurent en quelques heures, ou quelques minutes. Les médecins, que l'on appelle à leur secours, pour ne pas aggraver, de faire peur à la famille, disent qu'il faut brûler le corps. Il y a un virus vicieux, venu de Chine. Les maladies viennent toujours d'ailleurs. Alexis et sa famille font attention à ce qu'ils boivent. Ils ne boivent que de l'eau bouillie. et des légumes et fruits cuits. Ils évitent d'aller chez les gens et de sortir, sauf pour le travail et les courses. Alexis continue à aller voir Madame Poncet. Elle ne parle jamais de l'épidémie. Elle semble vivre dans un monde à part. Un jour, qu'ils prennent le thé, on a frappé à la porte. Entrez ! Entre une jeune fille, grande, mince, blonde, très belle, avec les cheveux mi-longs blonds. Elle porte une robe d'été beige. Elle dit : « Ah, je ne savais pas que vous aviez quelqu'un avec vous. » Alexis est gêné. Madame Poncet dit, tu peux venir, nous pouvons prendre le thé, tu te prendras avec nous. La jeune fille s'approche. Alexis se lève. Madame Poncet dit, ma fille, ce jeune homme, c'est Alexis. Nathalie fait, bonjour, bonjour. Dit Alexis gêné. Madame Poncet dit, eh bien, nous allons prendre le thé. Asseyez-vous. Nathalie s'assoit en face d'eux. La mère appuie sur la sonnette pour qu'on leur apporte le thé. Madame Poncet dit à sa fille, ce jeune homme me tient compagnie pour prendre le thé. Il est charmant. Nathalie fait, oui, bien sûr. Et qui est ce jeune homme? On frappe à la porte. Alexis est tout rouge. La vieille va sûrement lui dire que c'est le fils de la bonne. Entrez! Entre sa mère. Vous apporterez une tasse en plus, ma fille, pour le thé. Bien, madame, elle se retire. Ce jeune homme aime beaucoup lire et il a du goût. Nathalie lui dit, c'est très bien. La mère dit, c'est le fils de madame Prudent. Nathalie dit, enchantée de faire votre connaissance. J'ai souvent entendu parler de vous par votre mère et vous êtes quelqu'un de très bien. Vous êtes en vacances? Oui, dit Alexis. Elle lui dit, Paris est pénible l'été. Lorsque j'aurai fini mes cours, nous pourrons aller nous promener un peu à la campagne. Je serai très heureuse, c'est de vous inviter un peu et que vous viendrez avec moi. Vous serez un petit peu comme mon petit frère. La mère lui dit, voilà une bonne relation. Mieux que celle de l'autre. Nathalie lui dit, mais je ne fréquente que des gens comme il faut. La mère lui dit, pas toujours. Et elle avance. On frappe à la porte. Entrez! Entre la mère. Qui apporte pour le thé. et elle se retire. Et ils prennent le thé en silence. Alexis est très gêné parce qu'il n'est plus seul pour prendre le thé avec Madame Poncet. Mais petit à petit, il est ébloui par la jeune fille. Elle le regarde gentiment. Après le thé, elle leur dit, « J'ai affaire dans ma chambre. » Sa mère lui dit, « Tu vas encore étudier cette chose. »«
Oui. » »«
Alors, tu vas apprendre des choses sur ton Gilbert. » »«
Et quoi, mère ?»«
Qu'est-ce que je te dis ?»« Que c'est un criminel. »« Il fait partie d'une secte. »
Nathalie hausse ses épaules
et va sortir de la pièce. Madame Poncet dit à Alexis, « Ah, les filles, ça ne pense qu'à fréquenter les garçons. Ma fille est folle. Tout ça va mal se terminer. Allons, terminons notre thé. » Ils terminent leur thé, et après Madame Poncet ramène Alexis vers sa mère. Et la mère et le fils s'en retournent. Sur le chemin qui les ramène chez eux, la mère dit à son fils, « Madame Poncet est très dure avec sa fille. Pourtant sa fille fréquente un gentil garçon et d'une famille très riche et il est étudiant en lettres. Il vit chez ses parents, boulevard Velasquez. Son père est très très riche. Il est dans le bâtiment. Tu sais, Franblanc, tu vois le nom sur tous les murs. Sur tous les murs de Paris. » Alexis lui demande, « Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas que sa fille fréquente un si beau parti ?» Sa mère lui dit, « Je ne sais pas, peut-être une querelle de famille. » Pendant plusieurs jours, Alexis ne voit pas Nathalie. Il pense souvent à elle parce qu'il la trouve très belle. Et chaque fois qu'il va chez Madame Poncet, il se dit qu'il la verra peut-être. Madame Poncet ne parle plus de sa fille à Alexis. Alexis se dit que sa fille doit éviter qu'elle fréquente un garçon. Ça doit l'agacer de la voir se préparer comme font les filles lorsqu'elles vont voir leur fiancé. Et puis, elle est peut-être jalouse et a peur de la perdre. Il se dit que les mères sont toutes comme ça. Les jours passent. Il fait toujours aussi chaud, les gens prennent des malaises, la ville est endormie.
La journée, les rues sont désertes. Les gens restent à l'ombre. Seuls les cris des enfants qui ont le courage de jouer le font dans la rue, dans les rues des villes désertes. Les chantiers travaillent au ralenti, avec des heures particulières. On commence tôt le matin et finit tôt l'après-midi, de 5h à 12h. Et pour l'équipe d'histoire, c'est 22h à 5h. L'après-midi, sur le chantier, il y a seulement des vigiles qui sont dans des salles climatisées et regardent sur des écrans. Ils ne font des rondes qu'une fois toutes les heures. Le père d'Alexis ne travaille que le matin, de 5h à midi. L'après-midi, il reste allongé dans son lit. Sa mère, elle ne fait la cuisine qu'une fois par jour et pour toute la journée. Le matin est pour le lavage et le repassage, c'est le matin aussi. L'après-midi, c'est le service d'un coup et un coup de balai. Alexis reste dans sa chambre la journée. Il lit. Lorsqu'il y a le besoin, le matin, il fait les courses. Alexis n'a pas d'amis de son âge et ses camarades font comme lui, ils ne sortent pas. Alexis va chez Madame Ponset tous les jours, sauf le dimanche. Il y va parce qu'il ne veut pas que Madame Ponset ennuie sa mère parce qu'il n'est pas venu. Mais ça le gêne. Surtout qu'il fait encore chaud. Le trajet est tout de même assez long. Il n'y a pas de transport en commun, ou très peu. Et puis, ça coûte cher. Il y a aussi des grèves. Des heures d'été. Le manque de carburant. Les chaussées défoncées. Tout ça fait que les transports en commun roulent très peu. L'après-midi, qui s'apprête à sonner au portail de Madame Ponset, il voit gêné arriver vers lui Nathalie. J'aimerais s'en aller, mais n'ose rien faire. La jeune fille est accompagnée d'un beau jeune homme, dans les 19 ans au moins. Il est grand, mince, blond, les yeux bleus, une tête ronde, le regard très droit. Alexis le trouve très beau. Et d'une élégance naturelle qui démontre qu'il n'est pas comme les autres. Une élégance qui vient de lui-même. Il porte une chemise blanche et un pantalon crème. Arrivée, Nathalie lui donne un baiser et lui dit « À demain, Gilbert !» Et Gilbert s'éloigne avec une grâce exquise. Elle dit « Bonjour, Alexis !» et appuie sur la sonnette. Oui, elle dit, c'est moi. Les clics de la porte se font entendre. Entrée. Alexis se dit qu'il aimerait bien connaître Gilbert plus tard. Il suit Nathalie qui le fait entrer dans l'hôtel. Elle dit à la vieille femme, j'allons voir ma mère. Et ils y vont. Elle frappe à la porte du salon. Entrez! Elle ouvre la porte et dit à Alexis, entrez, il entre. Elle le suit. La mère dit, ah, c'est vous! Nathalie lui dit, oui mère. Elle s'approche de sa mère. Il la suit gênée. Sa mère est toujours assise à la même place. Nathalie embrasse sa mère. Bonjour mère. Bonjour. Vous avez passé une bonne journée?
Pas plus bonne qu'une autre. Toujours la même chose. Depuis que je suis ruiné, je ne fais rien. Et toi?
Moi, j'ai étudié.
Tu étais avec ton Gilbert.
Oui. Et il m'a juste raccompagné jusqu'ici.
Il a le culot de te raccompagner.
Oui, ne va pas nous disputer devant ton invité. Je te laisse, j'ai affaire.
Et elle l'a quitté.
Madame Poncet dit,
voilà comment ma fille me traite.
Et les jours passent. Lorsque Nathalie est avec eux, elle ne voit pas Alexis. Pour elle, ce que n'est qu'un petit garçon, le garçon de la bonne, rien d'autre. Lui la voit. Il la trouve très belle. Il y a des jours, lorsque la mère et la fille sont ensemble, elles ne font que de se disputer.
Je ne veux plus que tu voyes ce fils de rien.
Il lui dit, sa famille est plus riche que nous.
Bien sûr, ce sont des arrivistes et des criminels.
Des criminels de quoi? Vous dites toujours que ce sont des criminels, mais vous êtes incapable de me dire de quel crime ils sont coupables.
De tous les crimes.
Nathalie ouvre ses épaules et dit, cela ne veut dire d'aucun.
Si. Ils veulent s'emparer des richesses du monde. Et ont déjà tué des milliers de personnes.
Vous êtes folle, mère.
Tu devrais avoir honte de traiter de folle ta mère.
Alexis, au milieu de ses femmes en furie, se fait tout petit et aimerait s'en aller. Il a honte d'assister à ces scènes. Des fois, il a l'impression qu'elles l'ont oublié. Alors, tout doucement, sans faire de bruit, il se lève et va vers la sortie.
Alexis, mon petit, reste,
lui dit Madame Poncet.
Reviens t'asseoir.
Il retourne à sa place.
Ma fille est folle, ne fais pas attention.
Nathalie ouvre ses épaules, se lève et sort de la pièce. Madame Poncet hausse ses épaules, soupire et dit « Ma fille n'est pas sérieuse. J'aurais dû avoir un garçon comme toi. » Des fois, la mère d'Alexis entend la patronne dire qu'elle aurait aimé avoir un garçon comme lui. Elle en est fière et un peu jalouse. C'est son fils tout de même. Sur le chemin qui les ramène chez eux, elle lui dit « Tu sais, Alexis, ne te mets pas des idées dans la tête. Tu n'es que le fils d'une famille pauvre, mais qui t'aime beaucoup. Et c'est l'essentiel. Tout ce que tu vois chez ta patronne, tu ne pourras jamais y avoir. » Mais lui se dit que s'il le veut, qu'il le veut vraiment, et après, il aidera ses parents. Alexis voit toujours ses deux amis au grenier. Il leur apporte un peu à manger lorsqu'il le peut. Frédéric se rétablit petit à petit. Il n'a plus de fièvre, mais ses jambes sont raides et les blessures sont encore apparentes. Il ne peut pas encore marcher. Didier arrive à faire de petits boulots dans le quartier, de la peinture chez les commerçants et refaire les façades, quelques courses, un peu de ménage, laver les vitres, etc. Ça lui permet d'avoir un peu à manger parce que les gens le payent en nourriture. Ils ne sont pas très riches. Les deux jeunes gens arrivent à survivre. Didier dit à Alexis: fallu, c'est un médecin pour Alexis, mais je crois qu'il va s'en sortir. Frédéric dit à Didier: sans moi, Didier aurait pu s'en sortir, mieux s'en sortir. Je suis une bouche de trop, Didier lui dit. Peut-être, tu ne me gênes en aucun cas, et puis tu es blessé. Frédéric lui dit: je suis un inconnu pour toi, que tu as sauvé, mais je ne suis qu'un inconnu, rien d'autre. Didier lui dit: non, tu es un homme, et c'est le lien le plus fort qu'il soit. Un homme doit aider et assister un autre homme. Autrement, on est des monstres sans conscience. Frédéric lui dit: des cannibales? Didier lui dit: oui, ou des égoïstes. Et puis, une chose essentielle, la sociabilité. Avec toi, je ne suis plus seul, j'ai un compagnon. Ça vaut tous les trésors du monde. Partager le peu que l'on a, c'est une très grande joie. Il dit: oui, mais tu ne sais pas avec qui tu partages. Peut-être suis-je quelqu'un de très détestable. J'ai peut-être des idées criminelles. Tu me sauvais peut-être la vie d'une personne, d'un tueur. Or, Dieu lui dit: c'est un risque à prendre. En attendant d'être une personne dangereuse, tu es à la merci de tout le monde. Tu ne resterais pas une heure dehors sans te faire tuer. Assez parlé. comme ça. Nous ne sommes tout de même pas des intellos. Pour nous casser la tête. Nous sommes bien, ici, et c'est tout. La plupart du temps, ils s'arrêtent de parler pour manger. Alexis leur amène, lorsqu'il le peut, de la soupe, des épinards, un peu de légumes, de pain, des fois des morceaux de restes de viande. Mélangé, ça fait un plat complet. Didier leur joue de la guitare, des airs comme ça qu'il a appris tout seul en les attendant. Tu as appris à jouer de la guitare? Je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Mais j'ai dû certainement apprendre. J'ai oublié. Les jours passent. Un matin, Madame Poncet fait venir la mère d'Alexis au salon. Toujours au salon, assise à mes places. On a frappé à la porte. Entrez! Entre la mère d'Alexis. Vous m'avez demandé, madame?
Oui. Venez, vous asseoir près de moi. J'ai à vous parler.
Elle s'approche.
Asseyez-vous.
Elle s'assoit en face de sa patronne, madame Poncet. Poncet lui dit,
« Voilà, j'ai bien réfléchi. Vous savez, c'est que j'ai beaucoup d'affection pour votre fils. »
La mère rougit. Madame Poncet continue,
« Et j'aimerais bien, c'est pouvoir faire quelque chose pour lui, pour son avenir. Je connais le directeur du lycée Henri IV et le ministre de l'Éducation. Je vais demander... Est-ce que le petit puisse faire sa prochaine entrée scolaire au lycée Henri IV?
Merci, madame.
Je fais ça, c'est parce qu'il est très bon élève et qu'il pourra passer, poursuivre ses études correctement.
L'aîné lui dit,
merci, madame.
La portière lui dit,
c'est pour éviter aussi qu'il finisse en panté pour chien. Ou que ses organes aillent dans le corps d'un vieil homme.
La mère lui dit, mais c'est horrible. C'est le plan franc-blanc ricain des monstres. Ils prennent des enfants à la sortie des écoles et en font ça. Mais ils ne risquent rien au lycée Henri IV.
Merci pour tout, madame.
Et la mère se dit, je ne peux pas accepter. Les études coûtent cher. La poncée lui dit, ne vous faites pas de soucis pour ça. Je donnerai une pension.
Et extrêmement gênée, Madame Poncet lui dit, je serai sa marraine. J'aime beaucoup votre fils. Merci, madame. Merci.
Sur le chemin du retour, elle n'a rien dit à son fils. Elle veut d'abord en parler à son mari. Arrivée chez elle, elle retrouve son mari au salon. Elle lui dit,
je vais te parler.
Allons dans la chambre. Alexis sait que lorsqu'ils ont des choses à se dire et que lui ne doit pas entendre, ils vont dans leur chambre. Ils sortent du salon et vont dans la chambre. Une fois dans la chambre, le père demande, qu'est-ce que tu as à me dire? Elle lui dit, voilà. Ma patronne s'est entichée du petit. Le père va s'asseoir sur le rebord du lit. Elle lui dit, je t'écoute. Dit, elle veut le faire entrer au lycée Henri IV. Le père lui dit, c'est bien ça, mais le sien, il est bien. Où il est? Elle lui dit, non, il risque c'est de se faire prendre et être mis dans un bouilli pour chien. Le père ou ses épaules et lui dit, des bêtises de bonne femme. Elle lui dit, pas sûr. Elle sait des tas de choses. Et puis, elle veut que le petit puisse poursuivre ses études convenablement. Son collège est très bien. Et puis, il est prêt. Elle lui dit, oui, mais le lycée, c'est quelque chose, non? Le père réfléchit, lui dit, peut-être bien, mais ça coûte cher. Il n'en a pas assez. Là aussi, elle y a pensé. Elle veut lui donner une pension, lui payer ses études. Puis, de toute façon, c'est trop tard pour les inscriptions. Elle connaît le ministre de l'Éducation. Le père aux épaules et dit, elle pense à tout. Et pourquoi fait-elle tout ça pour notre fils? Elle l'aime bien. C'est louche. Elle veut nous le prendre. Elle veut en faire un de ses bibelots. Et puis le jour où elle ne voudra plus, elle va le briser. Notre fils. est à nous.
Dis, je sais, moi aussi ça ne m'a pas plu ce qu'elle m'a dit. Je me sentis humilié.
Le père demande, notre fils, le sait-il?
Elle lui dit, je ne lui ai rien dit. J'ai voulu d'abord t'en parler, avant.
Tu as bien fait. Et elle, elle lui en a parlé.
Elle lui dit, je ne le pense pas.
Que faisons-nous?
Il lui dit,
ça ne me plaît pas du tout. Il risque d'en souffrir. C'est un caprice de vieille femme riche qui s'ennuie. Elle veut peut-être en faire son caniche. Tu n'aurais pas dû le lui présenter.
Et je ne l'ai pas présenté. Ça s'est fait comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on décide?
Il lui dit, je ne sais pas.
Elle lui dit, si on dit non, il peut nous le reprocher plus tard et il risque de perdre la chance de sa vie.
Il lui dit, et si l'on dit oui et que ça se passe mal?
Elle lui dit, nous n'y serons pour rien. Nous lui expliquerons ce qu'il risque et s'il ne veut pas, il peut refuser. Et puis, si ça se passe mal, on pourra lui dire qu'on l'avait prévenu. Mais de toute façon, il ne pourra rien nous reprocher. Tandis que si l'on refuse, il peut nous reprocher toute sa vie, dire « J'avais la chance de ma vie et vous n'avez pas voulu », etc. Réfléchit et dit
« Mais c'est tout de même bizarre qu'elle veuille tant que ça s'occuper du petit. Je ne veux pas qu'elle nous le prenne.
Te fais pas de soucis. Te fais pas de soucis pour ça. Il nous aime.
Bien. Je veux bien. Qu'est-ce qu'on fait?
Elle lui dit, il faut lui expliquer tout ça. Viens.
Ils sortent de la chambre pour aller frapper à celle de leur fils.
Entrez.
Ils entrent. Le fils est à son bureau à lire. En les voyant, il se lève. Sa mère lui dit,
non, reste assis, nous avons à te parler.
Et il s'approche de lui.
Et elle lui explique ce que veut faire Madame Poncet pour lui. Puis son père lui dit,
mais réfléchis bien avant de nous dire si tu es d'accord. Parce qu'elle cherche peut-être, c'est à s'occuper de toi pour que tu deviennes sa chose. Et une fois qu'elle n'a plus envie de toi, elle peut te rejeter. Et tu risques, c'est de te trouver sans rien.
Sa mère lui dit, t'as peut-être,
mais fais très attention, elle a peut-être dans sa tête le projet, c'est de t'enlever à nous en t'occupant, en s'occupant de toi, en t'accomparant.
Et ici lui dit, personne m'enlèvera à vous, je vous aime, vous êtes mes parents. Je ne veux plus voir cette femme. Je ne veux être avec personne d'autre.
Son père lui dit, si tu ne veux plus la voir, tu es libre.
Sa mère lui dit, mais attention, tu risques c'est de perdre beaucoup. Et plus tard, tu risques de le regretter. De faire poursuivre des études dans le plus grand lycée de France et avec les moyens
qu'elle va nous donner. Réfléchis bien. Et puis, elle cherche simplement à te faire plaisir. Peut-être. Sans rien penser. Et il demande, qu'est-ce que tu en penses, maman? Elle lui dit, c'est à toi, mon chéri. Réfléchis bien. Si, fronce les sourcils. Comme c'est dur, à 12 ans, de prendre une décision qui va risquer de jouer pour toute sa vie. Il est encore un enfant, il ne connaît rien du monde, ne sait rien des adultes, et on lui demande de décider de son avenir. Lui qui ne voit pas vraiment son avenir, qui ne sait rien de la vie, il faut qu'il choisisse quelle vie il veut mener. Vivre une vie comme son père, une vie d'honnête homme, avec un petit salaire, un petit travail, ou vivre peut-être plutôt avec plus de chance de vivre parmi les grands. Il aime bien l'école. Oui, il aime bien l'école. Et sait que ses parents n'ont pas les moyens de lui faire poursuivre ses études. Là, il aura peut-être la chance. Il dit, sans vraiment réfléchir, oui, j'accepte, mais il a peur de ce qu'il vient de dire. Il ne sait plus. Il a dit ça, comme ça. Mais, il dit de suite, mais je reste avec vous. Ses parents l'embrassent et lui disent qu'il restera avec eux toujours. Mon père lui dit, et puis si ça ne marche pas, tu pourras arrêter et reprendre ton ancienne vie. Malgré tout, les parents sont très émus et ont peur. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.